bonjour à tous. Nous, c'est-à-dire Suzanne, Camille, Maïlis, Fiona et moi, Anna, nous avons décidé de vous parler du squat en tant que réponse possible à la crise de l'habitat. Donc le squat, c'est un mode d'habitat jugé illégal puisqu'il s'agit de l'occupation de logements vides pour y vivre sans en avoir l'autorisation. C'est souvent un groupe de personnes plutôt jeunes qui occupent les lieux en cherchant ainsi à créer une communauté autonome. Cette forme d'habitat se développe particulièrement dans les années, donc dans le contexte de la crise du logement en Allemagne à partir des années 80 et qui s'explique par la surpopulation urbaine, la spéculation immobilière et le manque de politique du logement. Donc nous, on étudiera les connotations associées aux squats, autrement dit donc la perception des squats par les médias français. Et pour cela, nous sommes appuyés sur des vidéos de l'INA, c'est-à-dire un contenu de différents médias français. Les sources sont donc des sources journalistiques qui expriment un regard étranger sur une situation plus courante en Allemagne. Ces vidéos sont issues de chaînes publiques, donc France 2 et France 3, ainsi que de TF1 avant sa privatisation en 1982. Nous remercions d'ailleurs M. Toublanc de nous avoir donné accès aux archives de l'INA, ainsi qu'aux organisatrices et aux organisateurs, et bien sûr au public pour sa présence. Et pour cette présentation, nous avons décidé de faire une approche diachronique en regardant l'évolution de ce regard français sur les squats des années 80 à nos jours.
Alors, on s'est particulièrement intéressé aux squats, puisque le squat est vu d'une manière très différente selon les points de vue. Donc, en effet, pour la majorité de la population, et on le verra d'ailleurs dans la vidéo, le squat, c'est plutôt le symptôme d'une crise. Alors que pour les squatteurs, le squat, c'est plutôt une solution aux crises du logement, voire même une opportunité pour fonder une communauté idéale, nouvelle, affranchie des principes de vie traditionnels. Et donc c'est vraiment cette sorte de paradoxe dans cette vision du squat qui nous intéressait. Et on a essayé on s'est demandé comment on peut penser le squat à la fois comme le symptôme d'une crise et à la fois comme une solution possible. Donc dans un premier temps, on va plutôt voir le squat en Allemagne dans les années 80, donc dans l'Allemagne de l'Ouest, comme une réponse controversée à la crise du logement. Et ensuite, on verra plus particulièrement le squat depuis la chute du mur de Berlin, donc depuis 1989. Et on verra que la réunification va engendrer des nouveaux enjeux liés au squat, mais que certains enjeux vont rester les mêmes. Et enfin, on se concentrera sur le cas de Leipzig, avec la création d'un squat légal. Et donc voilà, on verra comment ce squat légal peut-être une solution à la crise du logement.
Donc pour introduire un petit peu le sujet, nous avons choisi une vidéo datant des années 80 et plus précisément de l'année 1981 sur l'évacuation de squats, car elle évoque déjà de nombreux éléments clés que nous aborderons tout au long de la présentation. Cette vidéo nous a paru très représentative du regard porté par les médias français dans les années 80 sur le phénomène du squat en Allemagne.
Nouvel accrochage à Berlin entre les forces de l'ordre et de jeunes squatteurs. Vous savez, ce sont des gens qui s'emparent d'appartements inoccupés. Alors ça fait longtemps déjà que ces heurts se produisent. La police veut faire évacuer les occupants illégaux. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, ces heurts ont fait un mort.
Depuis 6 mois, le mouvement d'occupation des immeubles inemployés en Allemagne fédérale s'est concentré principalement à Berlin-Ouest en raison de la crise du logement qui y sévit. Les squatteurs occupaient une centaine d'immeubles dans le quartier de Schönberg, promis à la démolition, officiellement pour des travaux d'assainissement et de modernisation, mais aussi pour la spéculation immobilière. Ce mouvement, soutenu par l'extrême gauche ouest-allemande et notamment les groupes alternatifs, a menacé de s'étendre en République fédérale. Après une période de flottement, la nouvelle municipalité de Berlin, suivant l'exemple des autres grandes villes, a choisi la manière forte, d'où ces affrontements. Les squatteurs avaient reçu un ultimatum leur enjoignant de quitter les lieux avant lundi. 1800 policiers ont donc évacué ce matin 400 personnes barricadées dans les immeubles occupés, parmi lesquels également des professeurs de l'université de Berlin qui s'étaient déclarés solidaires des manifestants.
Donc comme vous avez pu le voir avec cette première vidéo, la crise du logement à Berlin donne lieu à des accrochages réguliers, notamment ici dans le quartier de Schönberg qui devait être détruit et rénové. Donc des accrochages entre les forces de l'ordre et des jeunes squatteurs. Deux points de vue s'opposent dans cette vidéo, celui des squatteurs et celui des forces de l'ordre. Et aussi, au vu des commentaires du journaliste, on peut y détecter une opposition entre générations, une jeunesse plutôt partisane de ce genre de vie alternative et une autre partie de la population qui est plus hostile et aussi souvent plus âgée. Donc ce point de vue assez hostile semble partagé par le journaliste, qui emploie des termes plutôt péjoratifs, voire méprisants, pour désigner les squatteurs, notamment avec la phrase au début « Vous savez, ce sont des gens qui s'emparent d'appartements occupés, inoccupés, pardon. » Il faudra donc, selon lui, opter pour la manière forte afin d'éviter que ces mouvements contestataires ne se propagent. Ici, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, les images parlent d'elles-mêmes, fumée, policiers, démolition et affiches de protestation, qui évoquent une des problématiques fondamentales de cette crise de l'habitat, la spéculation immobilière. Il y avait une des affiches, on ne pouvait pas forcément très bien lire, mais il y avait écrit « Wir wehren uns gegen die kriminelle Vereinigung von Senat und Spekulation », ce qui signifie en français « Nous nous défendons contre l'association criminelle du Sénat et de la spéculation ». Enfin, ces communautés organisées sont également mises en relation avec l'extrême gauche ouest-allemande par le journaliste, un ancrage politique qui, nous le verrons à travers notre présentation, va pouvoir être nuancé.
Voilà, donc après cette petite introduction, on va donc se concentrer sur le squat en Allemagne de l'Ouest dans les années 1980 et voir s'il s'agit d'une réponse, et qu'on va voir plutôt qu'il s'agit d'une réponse controversée à la crise du logement.
Pourquoi une fabrique de culture ?
C'est une fabrique de culture et c'est aussi une fabrique pour du sport et pour vivre ensemble ici. Nous sommes une commune avec 50 personnes et nous voulons rénover les maisons ici pour travailler avec du bois. Et aussi nous voulons faire une boulangerie pour faire du très très bon pain pour nous et pour le vendre aussi. On veut montrer le travail de culture pour des autres gens qui viennent ici apprendre jouer la guitare et faire du karaté et beaucoup de choses.
Notre communauté se compose donc de 25 hommes et 25 femmes. Pour nous, les femmes, cette mixité nous offre des occasions d'apprendre à faire des travaux considérés jusqu'alors comme typiquement masculins, tels que par exemple installer un chauffage central ou un dispositif de ventilation.
Hat, glaube ich, eine einzelne Frau, die hier in der Stadt lebt und sich auch für solche Arbeiten interessiert, hat diese Möglichkeit nicht.
Une femme seule en ville qui voudrait elle aussi faire un métier d'homme n'aurait certainement pas cette possibilité qu'offre la vie en communauté mixte.
Cette maison, Anne, cette maison, elle est occupée.
Oui.
C'est-à-dire que ce n'était pas votre maison, vous êtes en squatteur.
Oui.
Pourquoi avez-vous fait ça?
Oui, c'est une place très grande et on voulait détruire cette place ici. Et nous avons dit non, et nous avons occupé cette place. Et,
c'est un ancien studio de cinéma.
Oui, et c'est déjà un an que nous vivons ici.
Il y a beaucoup d'endroits occupés, j'en ai vu à Kreuzberg aussi.
Oui, il y a beaucoup de places ici à Berlin qui sont occupées. Parce que beaucoup de gens cherchent des appartements ou cherchent des places pour faire ce qu'ils veulent faire. Et la dernière possibilité d'occuper une place, il faut qu'on fasse ça.
Alors, cette communauté de Kreuzberg, donc, elle a été créée en 1980. Et donc il s'agit bien d'un squat, dans un ancien studio de cinéma, comme nous l'apprend le journaliste. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'est pas vraiment présentée comme telle, puisque les femmes qui sont interrogées disent qu'elles habitent ce lieu vacant, qu'elles l'occupent. On peut voir dès le début que la question du journaliste français est un peu moralisatrice. Hein. Il leur demande « Pourquoi avez-vous fait ça ?» Mais la jeune femme y répond de manière très tranquille, en proclamant son droit. Les maisons ne servaient à personne, elles n'étaient pas habitées, donc elle ne voit pas de problème pour les occuper. Et donc finalement, elle se repose sur un droit qui est inscrit dans le Grundgesetz allemand, donc dans l'article 14, je vais le dire en allemand et puis j'expliquerai en français après. Donc cet article, c'est « Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen ». Donc il y a une sorte de devoir des propriétaires envers la communauté. Et donc dans ce cas-là, cette propriété vacante, elle pouvait servir la communauté, mais on voit que dans les faits, ce n'est pas le cas, puisqu'il est interdit d'y pénétrer et que ces femmes, ces personnes qui squattent ce lieu vont être jugées par le journaliste. Donc les squatteurs peuvent invoquer cet article pour souligner l'injustice qui est faite envers la communauté. Le reportage représente ici plutôt une communauté assez idyllique, voire utopique, selon les points de vue. Et ces jeunes gens ont l'air très épanouis, ils construisent des familles, ils jouent de la musique au sein donc, de cette communauté. On peut se demander s'il ne reste pas dans cette communauté des traces du mouvement hippie qui s'est développé dans les années 70, donc ce mouvement pacifiste qui protestait contre la guerre du Vietnam. Et peut-être qu'ici, on peut voir aussi une tentative de créer une contre-culture, voire une contre-société, par l'habitation de ce studio de cinéma.
Dans cet immeuble occupé, le monde des squatters berlinois est encore en ordre. On sait pourtant déjà que la police a reçu l'ordre d'évacuation pour le lendemain. Une résistance passive a été décidée.
Am Abend zuvor hatten sie beschlossen, wie sie sich bei der polizeilichen Räumung verhalten wollten. Am Morgen danach.
Mais avec l'apparition de la police à l'extérieur, les premiers pavés sont arrachés. La bataille commence. Il n'y a que très peu de squatters parmi les assaillants masqués. Action, réaction, surenchère. Les matraques ne font pas de quartier. La police a investi les lieux dans l'intervalle. Les squatters sont évacués 3 par 3. C'est le terme d'un accord entre les forces de l'ordre et les squatters précisément. Des pauses sont l'occasion de dialogues surréalistes. Des occupants se plaignent d'être à la fin d'un rêve. Les policiers répondent qu'en ce qui les concerne, ils ne défendraient jamais l'un de leurs rêves à coups de pavé ou par des moyens illégaux. Réponse anticipée d'un orchestre filmé 2 jours plus tôt, il n'y avait pas de pavé au début de tout, mais qu'en est-il maintenant des maisons que l'on vide avant de les détruire? Parmi les auditeurs, un jeune homme de 18 ans, très attentif. Il s'agit de Klaus Jürgen Ratté. Son nom sera plus tard dans toutes les bouches.
Unter den Zuhörern war ein 18-Jähriger aus der Stadt Kleve am Niederrhein. Sein Name Klaus Jürgen Ratté.
Dans l'interview où il s'exprime alors, Klaus Jürgen Ratté dit qu'il n'a pas envie de travailler et qu'il a effectué un voyage de plusieurs mois dans toute l'Europe. J'y ai vécu dans la rue, sans rien faire, et je suis maintenant ici depuis un mois et demi. Ça vous plaît? Oui, car ce que l'on fait ici est tout à fait intéressant. L'occupation des maisons et tout le reste, ça n'existe nulle part ailleurs en Europe. J'étais en Italie, partout, jamais vu autant de monde différent à la fois. En somme, c'est l'art de vivre qui te plaît. Pourquoi? C'est surtout la solidarité et le fait que l'on rage pas mal, pourquoi ne pas le dire? Je trouve tout cela super, ces communautés dans ces maisons occupées, c'est optimal.
Alors dans cet extrait, on a d'abord des images de l'occupation d'une maison vide. Et alors même que ces squatteurs remplissent entre guillemets un vide, ils vont être expulsés. Donc d'abord, ils vont mener une résistance passive qui consiste à jouer de la musique. Globalement, on a vu le petit orchestre. Et puis après la présence des forces de l'ordre, ils vont mener une résistance beaucoup plus active qui va se traduire par des protestations et des manifestations très violentes. Donc on a entendu dans la vidéo « Je ne veux pas travailler ». Donc on constate vraiment le refus d'une vie conventionnelle et le refus d'une inclusion dans la société. Un petit peu après, ou un petit peu avant, je ne sais plus, mais on a entendu « c'est la fin d'un rêve ». Et donc c'est le mot « rêve » nous a aussi un petit peu interrogé et intéressé, puisque ces squatteurs, est-ce qu'ils idéalisent la solution de la crise, enfin la solution à la crise du logement que constitue pour eux le squat, ou alors est-ce qu'ils fuient dans l'idéal pour éviter de faire face à la crise?
C'est donc l'inquiétude pour cette nouvelle manifestation prévue demain à Berlin-Ouest. Berlin-Ouest où s'est rendu l'envoyé spécial de TF1, Bernard Volker.
Le gouvernement de Bonn craint que la mort d'un manifestant tué lors d'affrontements avec la police, ici même, ne provoque une nouvelle vague de violence dans toute la République fédérale.
Chaque soir à Berlin, la police affronte des bandes de casseurs qui gravitent autour des mouvements alternatifs. Ces mouvements, qui depuis une dizaine d'années prônent un mode de vie différent, sont particulièrement actifs à Berlin en raison de la situation de la ville. L'annuaire des organisations alternatives de Berlin-Ouest a près de 1000 pages et on y trouve tout, du cabinet médical au jardin d'enfants et à la boulangerie alternative. À Berlin, 80 000 personnes attendent un logement et un millier d'immeubles appartenant surtout à la ville sont vides en attendant que leur rénovation soit subventionnée. Les mouvements alternatifs en ont organisé l'occupation par des groupes de jeunes qui y mènent une vie qu'ils appellent alternative, c'est-à-dire en dehors des circuits économiques traditionnels, s'organisant comme bon leur semble et se débrouillant pour subsister en groupe. J'habite ici, je fais la cuisine, je répare les vélos et les motos, je passe tout mon temps dans l'immeuble. La plupart d'entre nous, la plupart des squatters, veulent tout simplement être laissés en paix. Mais déjà, les ouvriers du bâtiment manifestent contre les squatters qui les privent de leur travail. S'ils décident de poursuivre les expulsions, le gouvernement de Berlin pourra compter sur le soutien de la majorité de la population qui avait tremblé en apprenant que les alternatifs organisaient ce mois-ci le congrès mondial des écolos, des provos, des clodos et des marginaux. Mais l'échec du congrès a été total. Le mouvement alternatif a d'ailleurs réduit ses prétentions philosophiques. Et actuellement, le pacifisme rencontre un écho bien plus important dans la population. Et les alternatifs ne font que suivre le mouvement. Mais, bien qu'il soit politiquement inconsistant, le mouvement alternatif exprime le malaise d'une grande partie de la jeunesse allemande. Face à ce malaise, les responsables politiques sont perplexes, mais ils savent que le recours à la force contre les squatters peut rendre la situation explosive. Déjà, la mort d'un manifestant, il y a quelques jours, a remobilisé la gauche et l'extrême gauche, alors que le mouvement avait jusque-là paru s'épuiser. L'hiver sera peut-être chaud à Berlin.
Donc cette vidéo, elle fait le bilan un peu de notre première partie et montre aussi le retour un peu brutal à la réalité, surtout si on la compare à la première vidéo qu'on a montrée. Elle date de 1981 et elle montre les manifestations à Berlin-Ouest qui rendent hommage à ce squatter qui a été tué par les forces de l'ordre. Et c'est aussi la même personne que vous avez vue dans la vidéo précédente qui disait qu'il ne voulait pas travailler, donc c'est cette personne-là. Ces manifestations inquiètent les autorités qui redoutent une nouvelle vague de violence, d'autant plus que le mouvement contestataire qui, selon le journaliste, s'était épuisé et réduit au pacifisme, a été repolitisé par la mort de ce manifestant. Ce qu'on peut aussi voir, par exemple, à travers les affiches, encore une fois, où il y avait écrit « Es ist Krieg und wir werden siegen », donc « Nous sommes en guerre et nous vaincrons ». Mais ensuite, on se place aussi du point de vue des partisans de ce mode de vie alternatif. Et là, la vidéo est très intéressante puisqu'elle donne une définition de ce mode de vie donc, que je cite. « Ces groupes de jeunes vivent en dehors des circuits économiques traditionnels, s'organisent comme bon leur semble, et se débrouillent pour subsister en groupe. » Donc l'esprit collectif et solidaire est souligné. Et on voit un homme d'ailleurs dans la vidéo qui se présente un peu comme l'homme à tout faire, donc il répare les vélos des membres de la communauté, etc. Donc on voit une très grande entraide. Là encore, la problématique des logements vacants, des immeubles à rénover fait débat, tout comme le conflit générationnel, puisque le journaliste évoque le malaise de la jeunesse allemande. Mais un autre type de conflit apparaît également dans cette vidéo, celui entre les squatteurs et les ouvriers du bâtiment, qui, selon le journaliste, sont privés de leur travail à cause des squats, puisque, en fait, c'est eux qui sont en charge de rénover les bâtiments qui devraient être détruits et de les reconstruire. Donc la majorité de la population, d'après le journaliste, semble également être hostile aux squats et à leurs idées, comme on peut le voir avec l'expression « fait trembler la population ». Enfin, le journaliste reprend là aussi des termes très péjoratifs en français pour décrire les squatteurs. Écolo, bon, qui à l'époque visiblement était très péjoratif, provo, clodo et marginaux. On repère ici une stigmatisation des squatteurs par les médias, qui était très courante à l'époque. Et par le terme de provo, les squatteurs sont même presque criminalisés puisqu'ils sont associés à un groupe contestataire néerlandais des années 70 qui est connu pour sa violence. Donc là, les premières vidéos qu'on vous a montrées montrent un peu le regard posé sur les squatteurs à Berlin dans les années 80. Un regard donc somme toute plutôt péjoratif sur ces communautés qui se construisent autour d'un idéal mais qui sont souvent rattrapées par la réalité. La suite de notre exposé se concentre sur la permanence de certains enjeux ainsi que sur les nouvelles problématiques engendrées par la réunification et qui persistent encore aujourd'hui, donc des années 90 à nos jours.
À 50 ans, Dieter s'est proclamé le roi de Potsdamer Platz. Il a bâti son bidonville au cœur même de l'ancienne capitale du Reich qui va redevenir le centre du nouveau Berlin. Regardez ici, il y avait des inscriptions nazies, comme avant la guerre. On y a mis des signes de paix. Mercedes a acheté ce terrain occupé par une poignée de misérables. Elle a investi 2 milliards de francs dans l'affaire. 60 000 mètres carrés pour y construire une tour où vont travailler 7 000 salariés. Les chômeurs de Berlin en ont fait un symbole de lutte contre la puissance du capitalisme. Nous occupons cette place car nous sommes contre la firme Mercedes-Benz et ses projets de construction au cœur de Berlin. Contre le chômage aussi qui frappe la ville. Ils vont construire un bâtiment encore plus haut que la tour de la télévision, avec des bureaux de verre où les gens comme nous n'auront même pas le droit de travailler. Regardez, ils veulent aussi démolir la cité universitaire pour construire. Tout va être foutu ici. Mercedes a pu acheter le terrain avant la chute du mur. L'affaire est d'autant plus juteuse que Potsdamer Platz va redevenir le cœur de Berlin, comme elle l'était autrefois, quartier des affaires et de la presse. Mercedes, qui fait déjà briller son étoile dans le centre moderne de Berlin, va employer 20 000 personnes dans la capitale, dont le tiers seront des Allemands de l'Est. Malgré la pression des Verts, le projet verra le jour dès cette année.
Alors, cette vidéo, elle date de 1990 et elle illustre bien le fait qu'avec la réunification, de nouveaux enjeux vont émerger. Donc, en effet, à la chute du mur, le nombre de squats à Berlin-Est va vraiment exploser, notamment parce qu'on est dans une situation légale assez incertaine avec l'effondrement donc, du régime. Avec la réunification donc, de l'Allemagne, de nouvelles problématiques émergent, comme je le disais, et notamment ici, on voit vraiment les conflits d'intérêts qui peuvent se produire entre les occupants d'un même espace. Donc ici, c'est un terrain qui a été acheté à prix avantageux à l'Est, donc avant la chute du mur, et le terrain va prendre beaucoup de valeur par la suite, par la firme Mercedes-Benz, au détriment des anciens Allemands de l'Est. Donc il y a deux groupes qui vont s'opposer. D'un côté, les acteurs capitalistes, qui vont profiter de la spéculation immobilière, donc ici Mercedes-Benz, et puis les citoyens qui se sentent complètement lésés, puisque un tiers seulement des futurs employés seront issus de l'Est. Et donc ces citoyens vont exprimer leur désaccord par le squat. Et donc les chômeurs là, de Berlin qui sont présentés, qui ne sont d'ailleurs pas si jeunes, c'est un petit peu un décalage avec ce qu'on a vu là, dans la première partie, puisque c'était vraiment des jeunes, ici ce sont des personnes moins jeunes. Et donc ils vont faire du squat le symbole de leur lutte contre la puissance du capitalisme, et donc en l'occurrence contre Mercedes-Benz. Donc est-ce qu'on peut dire qu'ils ont été finalement spoliés d'une partie de l'espace qu'ils habitaient, puisque en tant qu'ex-citoyen de Berlin-Est, et auquel cas, est-ce que le squat serait finalement une forme d'occupation légitime et politisée, bien que illégale? Donc à noter toutefois les commentaires assez dépréciatifs du journaliste français, encore une fois, qui les qualifie d'une poignée de misérables. Est-ce que le journaliste cherche à les décrédibiliser, ou alors est-ce qu'il simplement il est assez lucide quant au fait que ces chômeurs, finalement, font pas forcément le poids face à Mercedes-Benz, qui est quand même une firme assez importante.
Diese Berufung werden wir natürlich noch weiter treiben, vor allem deshalb, weil mir sehr daran gelegen ist, feststellen zu lassen, dass hier Menschen wohnen in diesem Haus und aus diesem Grunde Gewerbemietrecht nicht zur Anwendung kommen kann. Der Rechtsstreit ging sozusagen verloren, weil der Eigentümer einen Vertrag auf 10 Jahre befristet geschlossen hat, was im Wohnraummietrecht aber gar nicht möglich ist. Es ist unzulässig, die Regelung des sozialen Wohnraummietrechts zu umgehen. Artikel 13 Grund.
Diese Gewalt gab es nur ganz vereinzelt. Also es ist eher weitestgehend störungsfrei, es ist eher eine Situation, in der die Emotionen zwar hochkochen, die lautstark ist, eine Protestform, die aber absolut zulässig ist, weil sie eben friedlich ist. Dass jetzt aber Flaschen und andere Gegenstände auf Einsatzkräfte geworfen wurden, Das ist natürlich nicht von der Versammlungsfreiheit gedeckt und da schreiten wir doch entsprechend ein.
Alors cette vidéo, elle est beaucoup plus récente puisqu'elle date de 2020, mais elle montre bien la permanence des enjeux entre donc 1990 et aujourd'hui. Elle nous a particulièrement intéressés parce qu'elle évoque plus spécifiquement le fondement juridique et les problèmes juridiques liés à la question du squat. Donc, en effet, à la suite de cette évacuation, plusieurs questions essentielles se sont posées, et notamment celle de, concernant le droit d'occuper une maison, le droit de manifester, le droit de protester, mais aussi le droit d'intervention policière. Donc la conception du droit va vraiment devenir un enjeu central dans la reconnaissance de la légitimité d'intervention, mais de chaque partie prenante, aussi bien les résidents que les forces de l'ordre. Donc pour Moritz Heutinger, donc l'avocat de l'association des résidents, le droit est de leur côté, et donc il est parfaitement légitime d'occuper cette maison et de manifester suite à l'évacuation. A l'inverse, pour le porte-parole de la police de Berlin, il y a deux formes de protestation qu'il va vraiment séparer et différencier. Donc la première, c'est une forme de protestation complètement légitime, selon lui, et légale, puisque c'est une protestation pacifique, alors que la deuxième, qui est une forme de protestation beaucoup plus violente, est pour lui inadmissible, et donc la police a le droit, voire le devoir, d'intervenir pour mettre un terme à ces protestations plus violentes.
Donc on l'a vu, dans les années 90, si des nouveaux enjeux ont émergé, ce sont toujours les mêmes difficultés qui poussent les squatteurs à occuper des logements inoccupés. Il semblerait que le regard porté par les journalistes, toutefois, ait un peu changé et soit peut-être devenu un peu plus clément. Dans la première vidéo, il y a tout de même une certaine injustice qui est soulignée par le journaliste. Et dans la seconde, on essaie quand même d'interroger, par exemple, cet avocat qui va essayer de défendre les squatteurs. Et donc, pour faire face à la crise de l'habitat, le squat tel qu'on l'a étudié jusqu'à présent ne semble pas être la solution efficace et durable. Mais alors, quelle solution peut-on envisager ? C'est à cette question que notre dernière partie va essayer de répondre. Elle traite une étude de cas, celui de Leipzig, et de sa communauté qui ressemble fortement à un squat de par son aspect communautaire et idéaliste, mais qui, contre toute attente, est totalement légal et même encouragé par la ville.
Là, on vous présente un document un petit peu différent, puisque c'est un document audio qui vient donc d'une interview de France Inter, qui s'appelle « La vie communautaire à Leipzig » du 11 avril 2015. Et donc c'est une interview du photographe Cyril Marcilassi qui a vécu dans cette communauté et qui présente sa série de photographies. Et nous le remercions très chaleureusement de nous avoir autorisé à montrer ses photos.
On découvre par exemple dans ce reportage Suzy qui a acheté un bâtiment de 800 mètres carrés pour 30 000 euros. D'après mes calculs, ça fait 37 euros le mètre carré. Ça défait toute concurrence.
C'est vrai que c'est pas cher. Et là, Suzy, c'est un cas particulier, donc c'est elle qui est partie toute seule avec cette idée-là de créer vraiment une vie communautaire, qui ne cherche pas du tout à faire des plus-values sur son achat, mais qui veut créer un lieu, au fur et à mesure des rencontres et des personnes qui viennent y habiter, de vie communautaire avec du yoga, des échanges, on y retrouve des étudiants, des visiteurs médicaux à la retraite, des professeurs d'université, des vagabonds aussi américains, qui apprennent à vivre ensemble autour d'une même idée de partage.
L'idée, c'est vraiment de lutter contre la spéculation immobilière à Leipzig ?
C'est une des idées. L'idée, c'est de sortir du système capitaliste et de lutter en effet contre la spéculation immobilière qui a notamment détruit un peu l'idée de vie communautaire à Berlin, par exemple. Donc ils veulent recréer un peu l'esprit de Berlin d'il y a 20 ans, mais en prenant les leçons de ce qui s'est passé à Berlin avec gentrification, spéculation immobilière.
Vous avez déchanté aussi, Cyril Marcellassi ?
Déchanté, je ne sais pas, mais c'est pour ça qu'on en a parlé d'utopie aussi. C'est que, bien sûr, tout a l'air joli. Évidemment, ensuite, la vie en communauté avec des personnes qui ne se connaissent pas forcément, c'est évident. Et il y a aussi un mode de vie qui est beaucoup plus lent, qui change un peu de notre mode de vie ici et qui peut manquer un peu d'énergie de temps en temps. Oui.
Derrière ce mot d'utopie, Cyril Marcellassi, il y a aussi l'idée que c'est un projet irréaliste finalement.
Irréaliste, c'est peut-être un peu fort, mais enfin, moi j'ai l'impression que c'est compliqué de lutter contre la gentrification. De toute façon, si un lieu est attirant, si un lieu n'est pas cher, si un lieu est festif, si un lieu développe les partages, il va forcément attirer du monde, donc c'est compliqué de lutter contre la gentrification.
Et les prix vont monter mécaniquement ?
Mécaniquement, les prix vont monter. Déjà, les spéculateurs, justement, commencent à racheter des immeubles de leur côté aussi. Alors, en fait, les problématiques du logement m'intéressent depuis un moment, notamment en France, et j'étais curieux de voir ce qui se passait à Leipzig, parce qu'il y a en France aussi énormément de logements vacants. Il y a beaucoup de personnes à la rue ou qui ont des problèmes de logement, et donc c'est des modèles qui peuvent inspirer des personnes en France.
C'est important de le préciser, c'est un modèle légal. Hein. Ces Allemands achètent les immeubles qu'ils occupent.
Alors, soit ils les achètent, mais c'est légal, oui. Alors, même la mairie de Leipzig est ravie d'avoir des habitants qui reviennent coloniser les espaces vides de la ville. Donc,
ce ne sont pas des squatteurs.
Ce ne sont pas des squatteurs, exactement. La mairie intervient aussi dans ce phénomène en cherchant, en proposant, en aidant à trouver les lieux vides et en aidant à monter, à faire des montages pour réhabiliter ces logements. Il y a beaucoup d'Espagnols aussi qui ont fui la crise en Espagne, qui se sont dit « Berlin, c'est bien », qui sont arrivés à Berlin, qui ont été déçus et qui ont trouvé leur compte à la Leipzig et qui trouvent du boulot. Parce que la mairie, la ville, n'accueille pas ouvert aussi tous les travailleurs parce qu'ils veulent relancer l'économie aussi.
Alors, quelles sont les règles de vie dans ces immeubles, dans ces logements communautaires, si on peut parler de règles, bien sûr?
Alors, il y a plusieurs projets qui imposent aux personnes qui sont là, qui payent un loyer ou pas, soit c'est un loyer très modique, soit ils ne payent pas le loyer, de travailler dans l'immeuble en question.
Donc, à la rénovation.
À la rénovation, exactement. Donc, faire de la peinture, rénover des pièces, entretenir. Et quand la mairie est impliquée, les immeubles doivent avoir un projet communautaire ouvert à tous, donc ouvert au public. Donc, ça peut être un bar, ça peut être une bibliothèque en libre accès. Ça peut être une cuisine qui prépare le dîner tous les mardis, par exemple, en échange d'une donation. On peut dîner tous les soirs à Leipzig pour 2 euros partout.
Donc le modèle là, qu'on nous a présenté repose bien sur un mode de vie alternatif hein, autour d'une une organisation en communauté. Mais donc, au contraire des squats qu'on vous a présentés avant, ce modèle est légal. Donc cet immeuble abandonné, il a été racheté donc, par Suzy, qui nous a présenté. À très bas coût, la journaliste explique, hein, c'est 800 mètres carrés pour 30 000 euros. Et cette initiative, elle a été soutenue par la mairie de Leipzig. Et donc, la mairie va même s'investir en proposant des lieux vides pour de tels achats et en aidant à la réhabilitation de ces immeubles. Mais en contrepartie, donc, elle exige la mise en place de projets communautaires ouverts à tous. Donc, ça peut paraître un peu paradoxal, mais c'est voilà, des bibliothèques en libre accès, un bar ou une cuisine, par exemple. Le loyer est très modeste. Mais les habitants de l'immeuble doivent aussi contribuer aux travaux de rénovation et d'entretien de cet immeuble. Donc finalement, tous les acteurs semblent y gagner, notamment la mairie, puisqu'elle va accueillir de nouvelles personnes, les espaces vides de la ville vont être repeuplés, et puis elle va avoir de nouveaux travailleurs pour relancer l'économie locale. Cependant, ce tableau peut apparaître un peu utopique, hein, puisque le but de ces communautés est bien de lutter contre le capitalisme, de lutter contre la spéculation immobilière. Mais donc le photographe admet lui-même que finalement c'est compliqué de lutter contre de tels enjeux et particulièrement contre la gentrification. Puisque ce lieu il est très attirant, il est festif, il est très peu cher et donc forcément les gens veulent venir dans cet endroit et les prix augmentent nécessairement. Et donc on peut se demander si ce genre d'endroit peut résister à la gentrification ou si finalement nécessairement les habitats alternatifs de ce genre seront gentrifiés. Mais si jamais le modèle de Leipzig s'avérait viable, il pourrait toutefois servir d'inspiration à la France, qui traverse elle aussi une crise de l'habitat dans les villes, avec de plus en plus de personnes dans la rue, ou avec des problèmes de logement.
Enfin, pour conclure cette présentation, nous pouvons résumer un peu toutes nos observations. Les enjeux principaux liés au squat sont permanents, notamment celui de la spéculation immobilière, mais aussi de la lutte contre la destruction de certains immeubles. Nous retrouvons également le côté communautaire, que ce soit dans les années 80 ou aujourd'hui. Mais surtout, l'enjeu principal qui reste très actuel est l'illégalité du squat et par conséquent l'expulsion qui est nécessaire et donc qui caractérise le squat. Cette expulsion et cette illégalité témoignent de l'impasse qu'est le squat en tant que réponse à la crise de l'habitat. Le résultat est constant. Le squat illégal ne peut être que temporaire. Toutefois, nous avons aussi remarqué qu'avec le temps, le regard des autorités et des médias portés sur l'habitat communautaire et alternatif a changé, ce qui a pu mener à la mise en place d'un intermédiaire légal comme celui de Leipzig, par exemple. Ainsi, cette alternative, bien que utopique peut-être, pourrait être une des réponses à la crise de l'habitat et aux autres enjeux révélés par l'étude des squats, à condition donc, nous l'avons vu, qu'elle soit légale et encouragée par la ville.
J'ai pas une question, j'ai juste une remarque parce que je pense que peut-être l'exemple de Leipzig est particulier. Je sais par exemple à Francfort, ce serait pas possible. Il y a des initiatives comme ça à Francfort, mais ça veut dire que ceux qui s'y intéressent se déplacent à 50 km, 40 km hors de Francfort parce qu'on aurait trop de gens qui ici déjà, il n'y a pas assez de place. Il n'y a pas d'emplacement comme ça. Donc ça devient aussi un enjeu de transporter l'urbanité quelque part ailleurs, un peu comme ça, et d'être un peu plus flexible par rapport à l'endroit même. où on s'installe, où on habite. Et j'ai un peu l'impression que ça va être beaucoup, ça va se populariser à cause aussi des technologies. Il y a pas mal d'étudiants qui peuvent très bien habiter à 100 km de Francfort. Depuis deux ans, ça ne pose pas du tout un problème avec l'enseignement en distance. Il y a certaines choses qui s'établissent, qui vont un peu en faveur de cela, puisqu'il y a des particularités régionales à considérer pour le cas de l'Allemagne. Ce serait possible à Lyon, peut-être pas.
À Paris, intramuros, par exemple, ce serait vraiment compliqué. La ville déborde. Enfin, on ne peut plus faire ce genre... Je ne sais pas s'il y a encore des lieux très vacants où on pourrait faire ce genre d'immeuble. Et justement, le cas de Leipzig se différenciait de Berlin, où Berlin, on avait eu des erreurs, où justement, à force de faire des lieux où il y a des squats qui, je pense, ont attiré aussi... les touristes, les bobos, et ben ça a contribué à la gentrification, et ben maintenant c'est trop cher pour faire ce genre d'endroit. Donc ça dépend vraiment des lieux et des villes, et à Francfort ça serait peut-être pas forcément possible non plus.
Disons que pour qu'il soit, il faut qu'il y ait friche, fricheur, sinon il n'y a pas de squat. Donc il faut que ce soit des villes qui sont dans une logique de clans industriels.
Je pense que les villes d'anciennes RDA sont particulièrement concernées, en fait, et plus adaptées.
C'est intéressant en France, c'est des sites comme Notre-Dame-des-Landes, qui sont des sites de résistance sur des projets environnementaux, et qui deviennent des petits villages en fait, où s'établissent des communautés qui s'inscrivent dans des logiques de contestation politique contre des projets, qui font communauté, qui font village, qui font presque une nouvelle urbanité. Mais parce qu'en France, on a beaucoup plus de difficultés à repérer des fricheurs qui puissent faire l'objet d'un investissement.
Il y a peut-être aussi moins de collaboration des municipalités. Hein. Oui, c'est vrai, ça a changé en Allemagne. Ils sont prêts à collaborer, à même à Francfort, à s'engager.
Moi, c'est une question par rapport au début de l'exposé, plutôt, justement, pour comment ça se fait qu'il y ait une telle... vacances, enfin, autant de disponibilité dans les années 80, enfin, est-ce qu'il y a des causes spécifiques? Parce que du coup, ça, enfin, on dirait qu'il y a quand même énormément de vide à remplir. Est-ce que c'est... Enfin, comment ça se fait qu'il y ait autant d'immeubles, même à rénover par exemple, enfin, est-ce qu'il n'y avait aucune politique, ou est-ce qu'il y a eu beaucoup de départs, ou...
Spécificité, je crois, dans le cas de Berlin de l'Ouest, à cause de la mur, ce n'était pas toujours attractif d'habiter à Berlin-Ouest, mais c'était attractif pour la scène de la gauche, la scène alternative, de vivre à Berlin, par exemple, pour éviter le service militaire. Juste un facteur, mais ça crée déjà une scène vivante à Berlin, mais un facteur politique et économique important, c'était une loi à Berlin qui donnait des bonus pour les immeubles quand ils étaient remplacés, les immeubles de Kaiserreich de 1900, oui, on a entendu déjà, quand ils sont tombés en ruine, et reconstruit par une nouvelle maison des années 70. Et il y avait des bonus par le Sénat de Berlin. À cause de ce bonus, toute la spéculation commençait et ils ont essayé de vider des vieux maisons à Berlin, à Kreuzberg. Et à Kreuzberg, il y avait des Schöneberg. Il y avait ce scène qui a dit non, on ne veut pas ce maison, les meubles vides qui sont complètement habitables. Il faut les occuper. Alors, il y a... C'est un peu aussi une simplification de dire que c'est illégal. Il y a aussi un contexte où c'était une destruction de la substance de l'architecture de Berlin de l'Ouest. On voit très bien maintenant, ces quartiers sont gentrifiés aussi parce que c'est joli, ces maisons de Kreuzberg, de Neukölln, de Prenzlauer Berg. Et Wedding, par exemple, moins. Parce que là, ce projet d'urbanisation des années 70 était plus efficace entre le Sénat et les propriétaires qui ont essayé de changer le visage de Berlin squatters, ils étaient aussi dans ce contexte pour sauver, on peut dire aussi sauver ce vieux immeuble de Berlin.
Oui, c'est intéressant parce que c'est vraiment pas évoqué par les journalistes français, enfin, ce qui était quand même nos sources principales. Oui. C'était très peu mis en avant justement cet aspect de conservation.
C'est même les débats est similaire en Allemagne. C'est juste on trouve ces ressources et ce contexte dans les années 70. Et bien sûr, il y a aussi des questions juridiques, je ne veux pas le nier. Bien sûr, ça existe.
Je sais qu'au premier semestre, quand on avait fait une présentation à l'INA, il y avait une des étudiantes qui était avec nous, qui a passé du temps à Leipzig et qui disait, alors je ne sais pas si c'était le même bâtiment, la même initiative. C'était ça. Parce qu'elle avait dit qu'effectivement, elle était tombée sur pas mal de lieux alternatifs qui se rapprochent un peu du squat ou juste des tiers-lieux, des choses. Ouais. Donc apparemment, il y a quand même cette culture-là. Et ce qui était intéressant, c'est peut-être pas trop dit dans ces vidéos-là avec les médias français, mais dans notre première présentation, il y avait vraiment cette idée que ce mode de vie alternatif, voire de squat, dans l'occurrence, c'était quelque chose qui peut-être s'appliquait un peu plus à l'ancienne Allemagne de l'Est. Ça, c'était la théorie des médias français, l'idée d'un collectif, l'idée de se débrouiller un peu avec les moyens qu'on a. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'encore aujourd'hui. Oui.
Juste, je ne pense pas que ça s'applique ici, parce qu'il y a comme une migration intérieure en Allemagne qui est très importante.
Oui, du coup, ce ne serait plus les mêmes populations.
À cause des options, des possibilités qu'ils ont là. Donc, je crois que justement, ce n'est pas un phénomène de l'Est, c'est plutôt un phénomène. Avec des Espagnols, ça a été mentionné, c'est un phénomène construit.
Mais c'est qu'il y a plus d'espace à l'extérieur.
Pas l'histoire.